Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable. Leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour David Imbert, comment allez-vous ?
Très très bien Florian.
Eh ben, je suis ravi d'être chez vous, dans vos locaux, merci de m'avoir accueilli, où on va parler de votre parcours. Alors si vous voulez bien, avant qu'on commence, moi j'ai utilisé justement l'IA, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai demandé est-ce que tu connais David Imbert et tu peux me faire un petit résumé sur lui ? Alors vous allez me dire ce qu'il a dit, vous allez me dire s'il ne dit pas trop de bêtises. Alors, profession expert comptable et commissaire aux comptes, position actuelle président du groupe Hendrix, il préside également l'association ATH depuis novembre 2024. Carrière, intègre le groupe CFC Hendrix comme directeur de mission, puis administrateur, directeur général en 2014, avant de présider le directoire à partir d'avril 2019. Divers a participé à plusieurs interviews et émissions, Smartlex, Journal Echo, Bismart, notamment sur l'IA, la facture électronique et les ambitions d'Hendrix.
C'est presque exact. Après, dans les titres juridiques, il s'est un peu emmêlé. Avant de nous appeler Hendrix, c'était SFC et pas CFC. Mais,
d'accord.
Mais globalement, c'est relativement fidèle et c'est bien la puissance de ces outils couplés aux réseaux sociaux où effectivement, on a plein d'infos.
Après, il a fait des petits raccourcis. Hein.
Oui, bien sûr.
Et on reviendra justement sur votre... partie.
En tout cas, où il a particulièrement raison, c'est sur la fin, sur les sujets qui m'animent, la transformation du métier avec la facture électronique, l'intelligence artificielle et puis le modèle économique de notre profession qui est en train de changer. Ça, c'est vraiment les sujets qui m'animent aujourd'hui et sur lesquels je pourrais parler des heures.
Et bon, on pourra y aborder si vous le souhaitez. Avant, dans la partie 1, on va parler en fait de votre passé. Ce podcast est propulsé par PennyLane, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennylane.com. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand David, en gros, il s'est dit « ça y est, il sera expert comptable, David ».
Alors, c'est un peu par hasard, mais pas complètement. Alors, j'allais dire, je ne sais pas si c'est la généralité, je n'avais jamais entendu parler de comptabilité quand j'ai passé le bac. J'ai fait un parcours classique. Je travaillais relativement bien à l'école, mais je ne travaillais pas beaucoup. Donc, tout se passait bien. J'ai eu mon bac, je ne savais absolument pas quoi faire. Je suis rentré en école de commerce, absolument pas attiré par les matières financières. À l'époque, c'était la fin des années 80. Les carrières, c'était plutôt le marketing était à la mode. Donc, j'étais rentré en école de commerce plutôt pour faire une carrière dans le marketing. Sans là non plus savoir exactement ce que ça recouvrait comme réalité concrète en entreprise. Mais en deuxième année, j'étais encore dans un cursus assez généraliste. En deuxième année, j'ai eu une intervention pendant un soir, pendant une heure et demie, d'un expert comptable, commissaire aux comptes. Un gros réseau international, donc je ne vais pas le citer pour ne pas lui faire de la pub. Mais en tout cas, s'il y a un moment qui a été un moment clé, ça a été effectivement ce que j'ai compris du métier d'expert comptable commissaire aux comptes à l'époque. Et je me suis dit, tiens, ça c'est super intéressant. Parce qu'en fait, le témoignage que j'avais entendu, c'était un témoignage de professionnel qui passait son temps auprès de chefs d'entreprise à s'intéresser aux problématiques des chefs d'entreprise. Et finalement, je me suis dit, ça a l'air intéressant. Il y a un vernis technique qui permet d'avoir une légitimité pour échanger avec les chefs d'entreprise. Mais la finalité, ce n'est pas de faire de la compta, ce n'est pas de faire de l'audit, c'est d'être au contact des dirigeants. Et c'est vraiment ce qui m'anime depuis que je suis rentré dans le métier. Alors, bien évidemment, j'ai passé toutes les étapes. J'étais collaborateur, j'ai passé des écritures, j'ai fait des audits, j'ai fait des inventaires, des choses comme ça. Mais avec toujours la vision de me dire, je fais mon panel technique, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être demain en contact avec les dirigeants et de pouvoir leur apporter quelque chose.
Ça ne vous a pas un peu frustré ? Parce qu'on le sait tous les deux, le diplôme, il est long. Et là, vous me disiez, bon, les maths, les calculs, c'est souvent ça qu'on met en avant, j'aime pas. Comment je fais pour tenir, pour dire, ça y est, moi, je vais vraiment
non,
que sur le
conseil ?
Non,
parce que je pense que toutes les étapes, elles sont importantes. Je pense que... être au contact des dirigeants et pouvoir leur apporter quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. On est effectivement dans un monde où on veut tout tout de suite, mais je pense qu'il y a des étapes indispensables. Il faut construire son bagage technique. Il faut se construire aussi en tant que professionnel, hein. Enfin, quand on débute, on n'a pas forcément l'assurance qu'on a quelques années après. On a besoin aussi de multiplier les expériences parce que je pense que une de nos valeurs ajoutées, c'est bien évidemment notre bagage technique, mais c'est aussi la somme de toutes les expériences qu'on a pu connaître dans des situations très variées, sur des domaines d'activité très variés, avec des moments de vie des dirigeants qui ne sont pas les mêmes tout le temps. Et c'est bien la somme de tout ça qui fait qu'on a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui auprès des clients. Donc, effectivement, on veut tout tout de suite, mais moi, je suis convaincu, et c'est ce que j'essaye de dire à mes enfants aujourd'hui. Enfin, on se construit sur du moyen long terme, on ne se construit pas sur du court terme. Et de temps en temps, il ne faut pas chercher à aller au plus vite, il faut chercher à aller au mieux. Et c'est vrai que les générations actuelles, elles ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Je pense que ça ne leur rendra pas service à moyen long terme. Il faut accepter, bah ouais, il faut se construire.
L'expérience, c'est important. Et moi, je voudrais revenir avec vous sur vos étapes clés. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les principales étapes de vos formations jusqu'à l'obtention du DEC? Vous m'avez dit un petit peu école de commerce,
Voilà.
mais il faut passer après par le DSCG, enfin, à l'époque, c'est.
Exactement. Donc, j'ai fait mon école de commerce. J'ai bifurqué sur un cursus plutôt financier.
D'accord.
J'ai commencé sur la fin de mon cursus école de commerce à passer les UV qui pouvaient me manquer. Hein, à l'époque, voilà. Enfin,
DESF, ça.
exactement, c'était ça. Et puis, dans l'année qui a suivi, j'en ai profité pour compléter mon DESCF pour pouvoir prétendre à l'ouverture du stage d'expert comptable. Et du coup, je suis rentré en cabinet comme stagiaire expert comptable.
D'accord.
Voilà, pour résumer. Donc, j'ai passé mes 3 ans de stage dans la foulée. Hein, ça veut dire que j'étais complètement débutant. Hein, bah, je me souviendrai toujours de ma première intervention avec un associé bah, qui est resté très longtemps, mais qui n'est plus là aujourd'hui chez Hendrix. Mais il m'avait emmené pour la première fois sur un dossier client. Je ne savais rien faire. Je ne comprenais rien à rien. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais voilà, moi, j'ai un peu le goût de l'effort et le goût du défi, donc je me suis accroché. Donc voilà, j'ai fait mes 3 ans de stage. Je n'ai pas du tout passé mon diplôme dans la foulée. Si je me remets un peu la chronologie, il a dû se passer 3-4 ans. Je me suis interrogé quand même si je restais en cabinet ou si voilà, j'avais un des clients très importants du cabinet qui voulait que je rejoigne ses équipes. J'ai su lui dire non, c'est toujours un client important du cabinet. Et puis, avec les deux fondateurs du cabinet à l'époque, on a initié une réflexion pour leur départ et de mon côté, la reprise du cabinet. Je n'étais pas diplômé à l'époque encore. Je me suis associé dans un premier temps, puis je me suis diplômé.
D'accord, donc il y avait déjà, c'est bien,
Ouais,
il y avait une ouverture
exactement.
d'esprit sur
Exactement.
une
Donc,
confiance.
quelque part, quand je me suis diplômé, j'avais une vraie motivation autre que d'aller au bout. Voilà, j'avais un peu tardé, hein, parce que on va peut-être y revenir, mais c'est vrai que la principale difficulté du diplôme, c'est que finalement, les dernières étapes, elles se font forcément en même temps que l'activité professionnelle. Et effectivement, on a une activité qui peut être prenante, où bah, quand on n'est plus au boulot, au bureau ou chez les clients, on a besoin un peu de souffler. Donc, ce n'est pas évident le soir, les week-ends ou pendant les vacances scolaires de se mettre à réviser, à écrire le mémoire. Donc, je comprends que ce n'est pas toujours évident de l'enchaîner. Il faut avoir un vrai objectif. Enfin, moi, je n'ai jamais voulu me diplômer pour me diplômer. Bien évidemment, en m'étant associé et en étant en position de reprendre le cabinet à l'époque, il fallait évidemment que j'aille au bout de mon diplôme. Donc, je l'ai fait de façon express après parce que la motivation était forte.
Mais je comprends, ouais. Et donc là, vous avez déjà commencé sur la partie 2 et on va aller plus
Ah,
dans les détails.
pardon,
C'est pas grave.
alors je
C'est le
suis un
fil.
peu. Voilà, je reste pas dans l'ordre.
On va dans l'échange, c'est ça qui est intéressant. Donc les défis rencontrés, c'est cette période de DEC. Donc on le rappelle grossièrement, on fait 3 ans de stage où on travaille comme tout le monde. Et à côté de ça, on a nos épreuves où on va souvent au conseil régional ou en e-learning. Et après, on a ce fameux diplôme de DEC avec nos épreuves finales. Donc moi, je voudrais revenir sur les principaux défis académiques ou personnels qui vous a été confronté à cette période-là. Vous me disiez, on travaille beaucoup. Comment vous avez fait?
Bon, Enfin, moi, le seul vrai défi que j'ai rencontré, c'est pas les 3 ans de stage avec les journées de
Oui,
formation,
ça
parce que
c'est.
ça rentre tout seul. C'est pas tant les épreuves à proprement parler à passer, parce que finalement, c'est la fin d'un cursus. On a passé des épreuves toute sa vie scolaire avant, pas bien compliqué. Non, la réelle difficulté, je pense que c'est le cas d'une majorité d'entre nous, c'est de trouver le temps pour rédiger le mémoire, très clairement. Donc, bon, j'ai fait ce que la plupart ont fait, hein. J'ai sacrifié un été. Pendant un été, j'ai fait que ça. Alors, bien évidemment, je ne voulais pas l'étaler sur 2 ans, hein. J'ai fait une opération commando sur un juillet-août, hein. Je m'en souviendrai encore. Mais bon, là aussi, je suis assez discipliné. Donc, c'était une discipline de fer, hein. Lever 7 heures le matin, j'écrivais toute la journée. À 18 heures, je fermais tout. Ah, je me changeais un peu les idées, puis c'était reparti le lendemain. Donc oui, ça a été de se dire, pendant une année, je sacrifie mes vacances d'été et je fais ça à fond, hein. Donc après, voilà, faut pas se rater pour pas y retourner. Mais donc je trouve que la vraie difficulté, c'est ce mémoire. Peut-être qu'une réforme du diplôme avec quelque chose d'assez différent, parce que c'est un mémoire qui prend du temps, c'est pas une thèse néanmoins. Donc, enfin, on écrit une centaine de pages. On a l'impression que c'est énorme, une centaine de pages, mais en réalité, on rentre pas en profondeur malgré tout dans un sujet. Donc, je trouve que ça a l'inconvénient de passer beaucoup de temps sans apporter non plus. Enfin, c'est les jeunes futurs diplômés que je peux un petit peu coacher. Enfin, c'est ce que je leur dis. Vous n'allez pas révolutionner la profession.
Complètement.
Choisissez un sujet sur lequel vous êtes légitime. Et puis voilà, développer autour de ça. Vous n'allez pas réinventer. Donc, la vraie difficulté, pour conclure, c'est le mémoire.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mémoire et vous rappeler du sujet,
Ouais, tout
du
à fait.
titre?
Alors, le sujet a été assez évident pour moi, parce que c'est pas évident, hein, de trouver un sujet avec un angle d'attaque. J'avais la chance, et c'est toujours une de mes grandes spécialités, mais j'avais la chance à l'époque d'avoir commencé à travailler sur un secteur d'activité très particulier, les clubs de sport professionnels.
Oh, ça c'est bien ça.
Donc, c'est top. Moi, j'adore le sport, hein, j'en fais beaucoup. Et donc, du coup, j'étais en résonance avec le sujet. Et du coup, j'ai écrit mon mémoire sur l'activité du commissaire aux comptes, toutes les particularités du commissaire aux comptes sur un club de football professionnel, puisque je travaillais dessus, donc avec voilà une méthodologie, les points marquants. C'est un secteur d'activité qui a beaucoup de particularités en termes de gestion, en termes juridiques, en termes fiscaux. Donc voilà. En fait, j'étais un peu feignant. C'était un sujet que je maîtrisais relativement bien, donc l'écrire, ça n'a pas été très compliqué. Grosso modo, j'avais à écrire tout ce qui était technique, méthodologique, je l'avais. Donc voilà, à la fois le sujet me passionnait et c'était un sujet qui était plutôt facile. Donc je m'en souviens très bien.
Mais c'est bien que vous dites ça, parce qu'en fait, pour vous, vous dites c'est simple parce que vous faites tous les jours, sauf que ça va être un apport, une plus-value pour les autres experts comptables qui n'ont peut-être pas cette vision.
Je n'ai pas.
Oui,
À l'époque, je n'avais pas l'ambition d'apporter. Je voulais aller au plus vite et au plus simple et sur un sujet sur lequel j'allais passer un été et donc sur lequel. Voilà, ça n'allait pas être la crouée à la bannière tous les matins de me dire oh, faut que je me mette sur le sujet, c'était plutôt intéressant quand même.
la notice, ça s'est bien passé?
La notice s'est bien passée, le mémoire s'est bien passé sans être extrêmement brillant. Voilà. L'objectif a été atteint, j'avais un temps donné, il a été atteint.
Je voudrais revenir un petit moment sur les méthodes ou stratégies que vous avez mises en place pour surmonter ces obstacles. Vous m'avez parlé pour le mémoire, on bloque les 2 mois. Et le reste du temps, comment on fait pour, en même temps que je suis salarié, gérer un petit peu cette vie-là?
Alors, encore une fois, ça remonte un petit peu, hein, ça remonte à 25 ans, hein, je suis plus tout jeune. Franchement, à part le mémoire, je n'ai pas de souvenir marquant de difficultés.
Les petits rapports semestriels.
Non, les petits rapports semestriels, enfin, très, très sincèrement, c'est pareil. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir la même logique, de connecter mes rapports semestriels avec mon activité, celle qui m'intéressait le plus sur les mois écoulés. Donc, quelque part, oui, faut un peu formaliser les choses, mais non, franchement, pas de difficultés marquantes, mis à part le temps à consacrer aux mémoires sur la dernière ligne droite. Je pense que c'est le principal écueil.
Pour les écrits, comment ça s'est passé? Vous les avez préparés, vous êtes monté sur une école parisienne ou...
Non, je les ai faits en travaillant, ni plus ni moins. Alors, avec évidemment ce qu'on est nombreux à avoir vécu le dimanche soir en région, le petit hôtel en région parisienne avec les
Oui.
grosses valises, avec tous les mementos, voilà, la petite barre de céréales, la petite bouteille d'eau. Non, je ne les ai pas préparés spécialement. J'avais la chance sur mes 3 ans de stage d'avoir fait essentiellement de l'audit.
Ok, donc le...
Et malgré tout, quand on fait de l'audit, il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, je ne sais plus si c'est complètement le cas aujourd'hui,
c'est
mais les
beaucoup d'audits.
sujets écrits, les écrits étaient beaucoup à base d'audit. Donc, quelque part, je ne voyais pas trop ce que je pouvais bosser en plus. Alors, voilà. Donc,
Sur la déontologie, par exemple, vous veuillez préparer.
pas plus que ça.
Bah tant mieux.
Pas plus que ça. Il ne faut pas le dire aux plus jeunes. Il hein. Faut bien préparer vos épreuves, mais voilà. Ben, faut quand même dire que j'ai passé mon diplôme et mes écrits. J'avais pas tout à fait 10 ans d'expérience professionnelle, mais pas loin.
D'accord.
Donc peut-être que ceci explique cela aussi. J'aurais eu à passer mon diplôme dans la foulée de mes 3 ans de stage. Je rappelle que j'ai commencé mon stage, je n'avais jamais bossé avant. Souvent, maintenant,
D'accord.
quand on commence le stage, bah, il y a eu un peu d'apprentissage, il y a eu des choses diverses. Donc j'aurais passé après 3 ans, c'était pas la même chose. J'ai dû passer 8 ans, j'avais 8 ans d'expérience professionnelle. Donc malgré tout, il y a un acquis. J'étais déjà associé. Même en posture, j'avais une assurance peut-être un peu supérieure à quelqu'un qui a juste 3 ans d'expérience.
Je vais prendre le contre-pied. Vous n'aviez pas peur de plus avoir cette vision académique, où en fait, où maintenant on demande toujours de faire concis en entreprise?
J'ai rarement peur avant une épreuve, donc j'y suis allé sans trop me poser de questions. Non. Ben non, parce que malgré tout, c'est une épreuve, mais le taux de réussite est quand même
Oui,
important.
c'est
Donc
vrai.
je me suis dit, je suis quand même pas plus, je suis pas plus bête qu'un autre. Enfin, je devrais à peu près y arriver, quoi.
Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur votre équilibre vie personnelle et professionnelle à cette période-là? Comment ça s'est passé?
À l'époque. Alors, en toute honnêteté, j'avais un déséquilibre vie professionnelle et vie personnelle beaucoup plus déséquilibré il y a 20 ans qu'aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, je le dis. Je l'ai bien vécu, ça n'a pas posé de sujet au niveau de la famille, ce qui est important, parce que j'ai toujours été soutenu, mais c'est évident que sur, allez, on va dire, mes premières années professionnelles, et j'allais dire mes 15-20 premières années professionnelles, la charge de travail, elle a été énorme. Enfin, je bossais 6 jours sur 7. Voilà. J'étais heureux, hein. J'ai jamais eu de burn-out ou d'état d'âme par rapport à ça. Je me suis toujours énormément éclaté dans ce que j'ai fait. Mais effectivement, l'aspect professionnel a été prédominant. C'était sans doute aussi une autre époque, hein. Je le dis toujours, on était un peu idiots, hein, sur nos premières années. On se tirait la bourre entre jeunes associés. C'était bah, celui qui facturait le plus, qui chargeait le plus. Voilà. Heureusement, l'époque a changé. Il y a des choses plus qualitatives à faire maintenant. Bon, on a des outils qui sont différents, hein, qui nous permettent aussi d'avoir un confort de travail très différent. Mais oui, pendant longtemps, j'ai eu une prédominance de l'activité professionnelle. Alors, c'est pas une fatalité, hein, puisque ça fait maintenant bien une dizaine d'années où j'ai un équilibre qui est complètement différent. Je fais énormément de sport, j'arrive à faire du sport en semaine, je prends voilà du temps assez facilement. Je pense qu'en structurant aussi le développement de son entreprise, forcément, on arrive à quelque chose de plus équilibré parce que c'est beaucoup plus structuré. Quand on est un plus petit cabinet, quand on a moins de services support, quand on a moins de moyens, quand on est en prise directe avec l'intégralité des problématiques, bah, c'est non-stop. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas des moments où je suis surchargé, mais ce n'est pas quelque chose de structurel, c'est quelque chose de conjoncturel. De toute façon, quand c'est structurel, c'est qu'il y a un problème dans l'organisation. Je ne sais pas si
Si,
je
si,
suis
mais...
bien le fil et si je réponds complètement. Je mêle le passé et le présent parce que. Parce que c'est toujours intéressant de voir aussi l'évolution et puis de tirer aussi les leçons du passé.
Bien sûr, c'est toujours plus difficile quand on est ex nihilo, où on a la manette de tout, qu'après quand on arrive à structurer. Et moi, au fil de la discussion, j'avais une question, c'est le fait d'avoir été associé avant d'être diplômé, est-ce que justement ça vous a poussé à travailler un peu plus? Vous disiez, vous travaillez beaucoup, est-ce que c'était ça ou... Et une pression peut-être
Oui,
naturelle,
alors
vous aviez?
c'est une saine pression et c'est une pression où je me mettais. J'allais dire, en m'associant, j'avais la perspective de reprendre le cabinet. Donc, quelque part, tout ce que j'ai fait, je l'ai très vite fait avant tout pour moi. Et bien évidemment, le faisant pour moi, ça sert à la collectivité Henrichs. Mais la motivation, elle était évidente. Ce n'était pas une motivation externe ou une pression externe. C'était moi qui me la mettais. Donc, c'est en ça où je n'ai pas d'état d'âme et je l'ai très bien vécu. Je l'ai toujours très bien vécu. Voilà. Donc, oui, bah, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut savoir pourquoi on se diplôme. Ça peut être parce qu'on a envie de mettre un point final à ses études. Mais il faut avoir une vraie motivation pour se diplômer, parce que c'est prenant. Quand on se diplôme parce qu'on a son projet de carrière, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile.
Oui, souvent on dit que c'est l'arrivée, le diplôme, alors que c'est le début
Bah,
d'une
c'est
nouvelle
plutôt le
vie.
départ. Voilà, à quoi il me sert demain?
C'est toujours difficile. Partons maintenant, ça y est, vous avez eu votre diplôme, donc vous êtes déjà associé. Rappelez-nous l'opportunité que vous avez pu avoir à ce moment-là.
Alors, avant mon diplôme, c'est-à-dire quand je me suis associé dans la perspective de reprendre le cabinet, et c'est à l'époque, on va dire, Henrichs, aux deux fondateurs, cabinet à l'époque qui était un joli cabinet, hein, qui n'a rien à voir avec Henrichs aujourd'hui, mais qui était un très joli cabinet, environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 personnes. Donc, quand on est jeune et parce que j'avais la trentaine, enfin, c'était quand même, à l'époque, c'était un défi. D'ailleurs, je me souviendrai toujours d'avoir entendu dire, on était essentiellement lyonnais à l'époque, des confrères beaucoup plus âgés à Lyon qui un petit peu rigolaient et disaient, les petits jeunes, ils vont se planter. Bon, un peu plus de 15 ans après, c'est intéressant de voir les parcours respectifs. Hein, mais bon, faut toujours rester. La grande leçon, faut toujours rester modeste et humble. J'allais dire, il y a plein de voies différentes et voilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Je suis désolé.
C'était de reprendre l'association, le sein de
Voilà.
l'association.
Donc, je m'associais pour faire carrière dans la profession. J'avais évacué quelques années auparavant le choix de faire carrière en entreprise, ce qui est aussi une possibilité avec le diplôme. Hein. Mon sujet était vraiment je m'associe pour diriger un cabinet et développer un cabinet. Donc ça a été très clair. Et quand j'ai eu mon diplôme, 2 ans après l'association, bah, j'étais pile à mi-parcours de la reprise aux deux fondateurs, puisque je me suis associé en 2004, j'ai eu mon diplôme en 2006, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai pris la présidence d'Henrichs en 2008.
Ça fait beaucoup là, sur cette petite.
Bah, c'est bien, faut aller vite, hein. Faut aller vite, hein.
Et ça, passer de ce statut, on va dire, de responsable plutôt technique et expert comptable à maintenant chef d'entreprise, ça, on l'apprend pas déjà sur le diplôme. Comment vous avez fait?
Alors, ça renvoie au début de nos échanges où moi, je vous ai dit que je me suis dirigé vers ce métier-là pour accompagner les dirigeants et entre guillemets, j'étais plus attiré par l'entreprise que par la matière technique. Matière technique qui est indispensable,
Bien
mais
sûr.
c'est un outil, c'est un moyen d'exercer. Je dis toujours, je dirige aujourd'hui une entreprise de service. J'aurais pu diriger une entreprise avec une autre activité. Ce qui m'anime, ce n'est pas d'être expert comptable, c'est d'être dirigeant d'entreprise et d'être développeur d'entreprise. Donc voilà, pour répondre
Bien sûr.
directement ou indirectement à votre question, ce que je peux évoquer.
Je voulais revenir sur la partie, à un moment où vous avez hésité, vous vouliez partir sur le métier de DAF, si j'ai bien compris.
Alors, je n'ai pas hésité longtemps, à vrai dire. J'ai hésité parce que la sollicitation venait de quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui était dans un univers que j'aimais bien et j'étais plutôt flatté à l'époque parce que j'étais jeune, hein, donc j'étais plutôt flatté. Mais en réalité, j'ai assez vite répondu à la question en disant non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter ma propre entreprise, de développer ma propre entreprise. Que, enfin, il y a plusieurs voies. Soit on reprend une entreprise, soit on la crée. Bon, moi, je l'ai reprise. C'était ça qui m'animait. Et en passant dans le monde de l'entreprise, là, pour le coup, je tirais un trait, pas définitif, mais au moins durablement sur cette aspiration-là. Donc, j'étais très bien dans l'univers dans lequel j'évoluais et que j'avais visualisé les prochaines étapes.
D'accord. En plus, vous avez gardé cette personne-là comme client. Donc,
Exactement,
voilà,
exactement.
ça peut proposer d'autres situations. Moi, j'avais une question. C'était en gros, le deck. Comment ça a pu influencer votre trajectoire, sachant que vous étiez déjà un petit peu associé avant?
C'est pas bien ce que je vais dire. Ça n'a pas influencé ma trajectoire. En gros, je n'aurais pas eu besoin d'être diplômé pour diriger un cabinet d'experts comptables. Je ne suis pas sûr que je me serais diplômé du DEC.
Mais maintenant, est-ce que ça vous apporte quand même de l'expérience ou une vision?
C'est
Enfin,
pas le
c'est
DEC,
formateur.
c'est pas le DEC, c'est le parcours lié au DEC qui m'a apporté de l'expérience. La matérialisation, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est quand même assez scolaire, assez académique, je pense qu'elle est plus complètement aux prises avec le métier d'expert comptable aujourd'hui. Mais on sait bien que
Il
tout
faut
ce qui
du
a
temps.
trait à l'éducation nationale, au diplôme, c'est long à réformer, mais c'est moins aux prises. Enfin, j'allais dire, même si je suis plus complètement à jour, timidement, on y met aujourd'hui autre chose que de la technique. Je pense que notre métier, en grande partie aujourd'hui, il est plus technique, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle. Il est à développer des capacités relationnelles, il est à développer un esprit critique pour pouvoir justement se positionner face à la multitude d'informations qu'on a aujourd'hui. Savoir dérouler un point technique de A à Z, aujourd'hui, nos outils le font mieux que nous, hein, entre nous. Par contre, il faut garder cet esprit critique, il faut garder cette curiosité, il faut garder cette ouverture pour... voilà. Donc, je suis désolé, je ne réponds
Non,
pas
mais c'est votre avis, vous aviez
voilà,
complètement raison.
complètement.
L'esprit
Vous
critique
ne
est
l'avez
très
peut-être pas
important.
entendu souvent, cette réponse. Le DEC en lui-même ne m'a pas apporté grand-chose. C'était un passage obligé.
Voilà. Vous avez sûrement eu au cours de votre carrière des rencontres et des événements qui vous ont poussé, qui vous ont inspiré. Est-ce que vous pourriez nous partager des noms ou des événements?
Alors, non, je ne sais pas si je vais partager des noms, mais
Vous
parce
pouvez,
que
hein.
non, c'est pas tant ça, mais je pense que je suis presque incapable d'en citer certains. Par contre, ce qui est sûr, c'est que très régulièrement, tous les ans, enfin, au cours de ma vie professionnelle, j'ai été partiellement inspiré par la plupart des chefs d'entreprise que j'ai accompagnés. Parce que, en réalité, la richesse du métier, c'est qu'on est face à plein de situations différentes, plein de contextes différents, et c'est ça qui est complètement passionnant. Je suis. C'est très positif ce que je vais dire, je suis une vraie éponge. C'est-à-dire que je m'inspire énormément de ce que je rencontre, et pour reprendre un exemple, j'ai toujours, à titre personnel, et puis aujourd'hui, c'est encore le positionnement d'Hendrix, pris autant de plaisir à accompagner un chef d'entreprise d'une TPE que le chef d'entreprise d'une grosse structure. En fait, il y a des choses passionnantes de partout. Donc ça a été éminemment important. J'ai jamais eu un modèle ou un mentor, pour être clair. Par contre, j'ai énormément de gens dont je me suis inspiré sur des choses positives qu'ils pouvaient faire ou des choses que j'appréciais moins en me disant ben, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas reproduire. Que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des confrères, des patrons de cabinet, et puis, j'allais dire, dans nos équipes, encore là aujourd'hui ou qui sont passées et qui ont fait autre chose, enfin, au niveau de nos équipes, on a aussi des gens hyper inspirants. C'est pas parce qu'on est dirigeant de l'entreprise qu'on n'a pas des salariés qui, à certains moments, nous font réagir, nous poussent et nous disent, bah voilà, en fait, ce qui me raconte là, c'est hyper intéressant. Et moi, je ne l'avais pas vu comme ça, ou j'abordais peut-être tous ces sujets-là pas sous le bon angle. Et donc, en fait, c'est plein de rencontres, on est un métier de rencontres. Je suis incapable de ressortir quelque chose en particulier. Par contre, c'est tous les jours où il y a des choses, passionnantes, intéressantes et inspirantes.
Je prends le contre-pied. Vous avez eu sûrement des défis ou des moments un petit peu durs lors de votre carrière. Comment avez-vous réussi à les surmonter et quelle expérience vous en tirez maintenant?
Alors oui, tout n'a pas été simple et tout n'a pas été rose. Ça serait quand même une erreur de le dire. Maintenant, je suis un ultra positif, je suis un ultra optimiste et je retiens que ce qui fonctionne bien. La chance que j'ai eue et qu'on a eue collectivement, c'est qu'on n'a jamais eu dans notre développement, dans notre croissance, dans notre construction, un énorme coup dur. On a eu des problématiques, on a eu, ça remonte, hein, parce que les dernières se sont toujours bien passées, mais il y a une dizaine, douzaine d'années, une croissance externe qui s'est moyennement passée. Pendant 2 ans, on a un peu galéré. On a eu des problématiques de mauvaise entente avec certains associés à certains moments, mais j'allais dire, c'est la vie des entreprises et ça n'a pas été comment dire, des épisodes extrêmement douloureux. Voilà. À certains moments, on s'est questionné, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Mais honnêtement, on n'a jamais fait fausse route ou on s'est jamais complètement planté. Voilà. À certains moments, voilà, on a transpiré, hein,
Bien sûr, c'est jamais
mais voilà.
agréable.
Donc, je suis plutôt très positif sur le parcours. On n'a pas tout bien fait. Mais on n'a jamais eu un épisode où on s'est dit on s'est complètement planté. Je veux dire, on est dans un Hendrix, on est vraiment dans une démarche où on entreprend, où on ose. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de faire un pas dans une direction, puis de se dire non, ça prend pas, donc on fait un pas en arrière, on repart dans une autre direction. Enfin, je veux dire, le fait de, entre guillemets, de se tromper ou de bifurquer ne nous a jamais paralysés. Ce qui fait que finalement, quand on fait un pas en arrière, ce n'est pas un échec. C'est aussi une façon de continuer à avancer et puis de construire sa route au fur et à mesure.
Je vous prends un exemple qui, ça touche un petit peu tout le monde. C'est la période Covid. On l'a su dès le lendemain qu'on était tous mis à la maison. Ça doit être quand même stressant
Alors,
en tant que.
vos auditeurs nous entendent et nous voient pas. J'aborde un grand sourire quand vous me parlez de
Oui.
la période Covid. Est-ce que ça a été une période paradoxale pour moi? Alors, ça a été une période, d'un point de vue professionnel, en tout cas sur le premier mois du premier confinement, extrêmement stressante. On ne savait pas où on allait. Mais j'ai un énorme sourire parce que c'est une tranche de vie que j'ai adorée. Alors, je ne devrais pas le dire, mais j'étais confiné en famille avec mes 3 enfants, ma femme, dans ma maison de campagne au sud de Lyon. Voilà, ça reste dans mon imaginaire une période hors du temps. Bon, pour être un peu plus sérieux, effectivement, le premier mois du Covid, ça a été une période extrêmement stressante, où on passait notre temps en visio, au téléphone, avec nos équipes, avec nos associés, avec nos clients, pour essayer de tenir la barre d'un navire dont on ne savait absolument pas où il allait. Pour continuer sur l'image maritime, on était dans le brouillard le plus complet, il y avait des rochers partout et on ne savait pas comment on les évitait. Très franchement, il y a eu une dynamique collective qui a été extraordinaire à ce moment-là, parce que les équipes, elles ont été, enfin, du jour au lendemain, on les a mis en télétravail à la maison. Ça a dû être extrêmement compliqué à vivre. Enfin, franchement, ils ont été dévoués, ils ont été à l'écoute de nos clients, en particulier nos équipes sur le social, parce que ça a peut-être été l'élément le plus critique. Je rappelle que fin mars, de mémoire, on a dû refaire pour les dizaines de milliers de payes qu'on avait à faire 2 ou 3 fois les bulletins de paye, parce que toutes les 24 heures, il y avait les règles de changement. J'ai cru qu'on allait perdre tout le monde à ce moment-là. On a été, enfin, nos équipes ont été, alors c'est un mot qui a été énormément galvaudé, mais extrêmement résilientes à cette époque. Et franchement, ça, enfin, on s'est aperçu que même si tout était arrêté, on arrivait à continuer à bosser. Nos clients étaient dans un stress absolu entre justement les parties sociales, les PGE qu'il fallait monter. Ça a été très dur à vivre le premier mois. Mais avec le recul, ça prouve qu'on a un rôle qui est fondamental auprès des dirigeants. Et beaucoup de dirigeants, on les a soutenus à bout de bras. Parce qu'eux étaient tout seuls. Nous, on avait notre collectivité qui fait qu'on ne se sentait pas isolé. Tous nos salariés, tous nos associés. Mais les dirigeants de TPE, ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc en fait, on servait aussi au téléphone un petit peu à les rassurer en disant « Vous inquiétez pas, on va gérer. » Enfin, donc période paradoxale, extrêmement compliquée. Avec le recul, on se dit on a vécu quelque chose de fou qu'on ne vivra sans doute plus jamais. Hein, mais ouais,
J'espère.
période paradoxale. Et le post-Covid a été aussi à gérer, hein, parce que bon, on a refait un deuxième confinement. Il y a eu une activité économique qui s'est arrêtée, qui a repris fort. Enfin, et depuis le Covid 2020, hein, 5 ans, on est rentré dans un monde hautement instable pour d'autres raisons. Donc, quelque part, ce qui s'est passé au Covid a été démultiplié, hyper amplifié. Mais depuis, on vit dans un monde post-Covid qui ressemble à la période Covid, hein. Crise de l'énergie, les conflits qui se rapprochent de plus en plus de notre univers européen. Il y en a toujours eu, mais ils sont de plus en plus proches. Enfin, on est dans un monde hautement instable, hein. Voilà, des changements ou de l'immobilisme politique qui fait que ça complique, hein, entre les États-Unis qui, depuis 6 mois, chamboulent les règles comme c'est pas possible, la situation politique en France qui fait que bah, on est à l'opposé de ce qui se passe dans certaines parties du monde. De toute façon, le Covid nous a préparés, nous, conseil des dirigeants, à évoluer dans un monde hautement instable. Donc ça a été le début. Personne n'aurait pu prévoir tout ce qui s'est passé en chaîne derrière, mais ça a été le début, enfin, d'une autre façon d'accompagner les entreprises. Alors, on avait beaucoup de certitudes avant le Covid. Depuis le Covid, on n'en a plus de certitudes, hein. Enfin, il faut surtout ne pas en avoir et rester très attentif et très ouvert aux moindres signaux pour pouvoir les anticiper, les détecter, hein.
Mais c'est pas simple, ça. Vous me dites qu'il faut rester positif, il faut prévoir, mais pas trop, pour s'adapter. Comment vous avez changé votre position par rapport à ça? Ça vous a un petit peu modelé différemment?
Ah ben, ça nous modèle forcément différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prévoit plus, mais ça veut dire qu'on prévoit, j'allais dire, à durée assez courte. Et surtout, quand on prévoit, on se dit, ce qu'on a prévu aujourd'hui, peut-être qu'après-demain, il va falloir le changer, il va falloir l'orienter différemment. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus agile qu'avant. Pour nous. Et du coup, c'est le discours qu'on porte aussi auprès de nos clients. Je rebondis sur l'optimisme. L'optimisme et être positif, ça ne se décrète pas, hein. Enfin, ça ne se décrète pas complètement. Il y a des natures plutôt positives, il y a des natures qui sont moins positives. C'est ni bien, c'est ni mal. J'allais dire, parce que sans ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, ça ne marche jamais longtemps. Voilà, c'était juste pour rebondir sur l'optimisme. Après, dans nos métiers de conseil aux chefs d'entreprise, d'être dans quelque chose d'extrêmement mobile, c'est passionnant. C'est beaucoup plus passionnant d'être dans que d'être dans un monde où c'est très stable, c'est très immobile et les changements, ils sont à l'échelle de la décennie. Enfin, quand on aime le conseil, quand on aime l'accompagnement, bah voilà, que ça foisonne, que ça bouge en continu, c'est passionnant. Et si je fais le lien avec la profession, ce monde qui est devenu instable, qui est devenu en évolution extrêmement rapide, l'impact sur notre profession, il est démultiplié par les révolutions propres à notre profession. Donc, ce qui fait qu'on est sur un momentum extrêmement intéressant, mais extrêmement bouleversant. Je ne reviens pas sur la macroéconomie tout autour de notre métier. Et notre métier, dans le même temps, il est complètement impacté. Moi, je prends toujours l'exemple d'une planète qui, pendant longtemps, n'a pas bougé. Puis il y a plein de comètes qui passent autour. Puis il y en a certaines qui percutent la planète. Donc forcément, elle est en train et de se transformer et de changer de trajectoire. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui parce que, aux éléments macroéconomiques, on est en train de vivre des révolutions liées à la facture électronique, liées à l'intelligence artificielle. Est lié à des nouveaux acteurs qui s'intéressent à la profession. Je pense aux fonds d'investissement, la financiarisation de notre métier, qui est en accélération, mais exponentielle.
Oui,
Là,
c'est impressionnant.
et tout ça fait que, à la fois, notre métier, d'ici 2, 3 ans, se sera quand même grandement transformé, et nos modèles économiques sont en train de voler en éclats. Il faut réinventer de nouveaux modèles économiques. Et là, mon optimisme naturel reprend le dessus. C'est passionnant parce que finalement, pendant 20 ans, 30 ans, je vais prendre moi ce que je connais de la profession. ça peut changer. Hein, on parle du conseil depuis 20 ans. Moi, j'ai toujours mes pers par les experts comptables, ils ne font pas de conseils quand on dit qu'ils font des conseils. Enfin, il faut se mettre en position d'être une entreprise multiservice pour pouvoir faire du conseil. Un expert comptable, il a été formé à faire de la comptabilité, à faire de l'audit. Quand il est très bon, il arrive sur un segment du conseil à faire un peu de conseil. L'illusion de faire croire à un expert comptable qui demain va faire du conseil, je n'y crois pas. Sa structure peut arriver à faire du conseil, mais il faut qu'il ait autour de lui des spécialistes des différents métiers du conseil, ce qu'on a construit, nous, au fil des années. Donc, tout ça fait que le modèle économique, l'expert comptable, son modèle économique, sa proposition de valeur historique, elle est basée sur le réglementaire. Avec la facture électronique, avec l'IA, le réglementaire ne disparaîtra jamais complètement, mais où 90% de son chiffre d'affaires était basé sur du réglementaire, demain, dans le meilleur des cas, ça sera 50% de son chiffre d'affaires. Donc il va falloir trouver de nouvelles sources de revenus, il va falloir imaginer un nouveau modèle économique. Et la facture électronique, l'intelligence artificielle, ça accélère à toute vitesse
C'est demain.
cette équation. C'est maintenant. C'est maintenant parce que, effectivement, vous avez raison, la facture électronique, s'il n'y a pas de nouveaux changements, on va rester quand même extrêmement prudent sur le sujet parce que les parlementaires qui n'arrivent pas à prendre des décisions ne sont quand même pas très chauds sur le sujet de la facture électronique. Mais si on est sur le calendrier, c'est dans un an. Un an à la rentrée de septembre. Ça veut dire que si on n'est pas déjà aujourd'hui dans la démarche de la facture électronique, on n'a aucune chance d'y être dans un an parce que, enfin, il y a un travail préparatoire auprès de nos clients qui est énorme. Je n'ai pas la proportion exacte, mais en tout cas sur les TPE, je pense qu'il y a un client sur deux, un client sur trois qui n'est pas compatible facture électronique. Donc avant même de lui parler de facture électronique, faut l'aider à construire son environnement, outil de facturation. Qu'il soit compatible facture électronique, parce que sans ça, pour lui, il aura une impossibilité au 1er septembre 2026. Donc, c'est maintenant. Hein, faut les... Quand j'entends encore certains confrères qui disent ouais, la facture électronique, c'est dans un an, non, enfin, on est en mouvement et il ne faut vraiment pas perdre de temps. C'est un boulot énorme.
C'est l'anticipation comme tout chef d'entreprise. Moi, j'avais un petit message à vous demander. Qu'est-ce qu'il faudrait dire ou qu'est-ce que vous adresseriez aux jeunes générations pour les pousser à s'engager dans notre parcours?
C'est un métier extraordinaire si on le conçoit comme un métier qui est un métier relationnel au contact des dirigeants. Il ne faut absolument pas concevoir le métier d'expert-comptable comme un métier technique. La technique, c'est un moyen, c'est un outil. Hein, on a une caisse à outils. Dans la caisse à outils, il y a de la technique. Mais notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants. Et franchement, il n'y a pas de métier plus intéressant que celui d'expert-comptable, d'auditeur. Je vais mêler les deux, même si l'angle est très différent, parce que la richesse qu'on a, c'est qu'on accompagne des centaines de dirigeants sur des dizaines de secteurs d'activité différents, sur des tailles d'entreprises différentes, à des moments de vie d'entreprises qui sont jamais les mêmes. En fait, l'image d'Épinal de l'expert-comptable, c'est que c'est un métier hyper routinier où c'est un peu toujours pareil. La réalité du terrain, c'est qu'on ne sait jamais comment notre journée va complètement se dérouler. Parce que les clients, quand on a des centaines de clients, forcément, il y a des actualités tout le temps chez les clients, il y a des imprévus, il y a des choses. Donc le métier est passionnant. C'est un métier qui, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la facture électronique, va gommer tout ce qui pouvait être le plus fastidieux et le plus pénible dans le métier. J'allais dire, demain, on ne passera plus d'écriture comptable. Demain, le déclaratif fiscal, qui est la croix et la bannière, parce que là, pour le coup, c'est rébarbatif, ça sera en grande partie assisté. Ça veut dire qu'on aura du temps pour se consacrer à l'essence même du métier, être au contact, être aux côtés des dirigeants de ces équipes pour les aider à se développer, à générer de la croissance, à générer des emplois. Et c'est ça le sens du métier de l'expert-comptable.
On va aller sur la partie 4, votre présent comme expert comptable. Je voudrais avoir votre avis sur le sens du succès. Ce que je veux dire derrière, c'est à quel moment vous vous êtes dit, en regardant dans le rétroviseur, c'est pas mal ce que j'ai fait, je suis fier de moi.
Moi, je fais énormément de sport à côté. Et en fait, j'emploie les mêmes recettes des deux côtés. Il faut savoir célébrer ses petits succès, mais de façon très rapide. Parce que quand on a un succès, c'est déjà du passé. Donc, on se projette sur l'étape d'après, toujours. Voilà, on gradue. Donc, il y a pas de succès absolu, il n'y a pas d'échec absolu. Je veux dire, c'est que des étapes. Donc, voilà, on a fait, sur le premier semestre 2025, on a fait des jolies réalisations au niveau d'Hendrix. C'est déjà du passé. C'est maintenant, c'est quoi l'étape d'après? Donc, voilà, je réponds à nouveau pas complètement à votre question. J'en suis désolé, mais je réponds avec la plus grande sincérité et je suis authentique dans mes réponses. Enfin, le succès, c'est éphémère. Il faut avoir une trajectoire, il faut s'y tenir. On a des temps de passage qui sont plus ou moins des réussites. Bon, quand on a une belle réussite, on la célèbre 24 heures et puis on passe à autre chose, hein,
Est-ce que vous êtes fier d'être président d'Hendrix en
Ah,
disant, quand même, c'est top?
je suis fier d'être président d'Hendrix et je suis fier d'avoir autour de moi 850 talents qui nous accompagnent. Et la plus grande fierté, c'est peut-être celle-ci, parce que être tout seul, voilà, on pourrait bien réussir, mais le succès individuel, il est fade, hein, il est très vite fade. Donc oui, bien évidemment, je suis très content de la trajectoire. On n'a pas tout bien fait. Demain, on fera à nouveau pas tout bien. Mais globalement, on a évolué, on a progressé, on a fait croître l'entreprise, ce qui est l'essence même aussi d'une entreprise. Et puis, ben voilà, on a 850 personnes, voilà, qui croient dans le projet Hendrix aujourd'hui. J'espère beaucoup plus demain. Donc ça, c'est une vraie fierté.
Pour vous, quel est l'archétype de l'expert comptable aujourd'hui?
Alors, c'est
C'est la
marrant
question
parce que
piège.
sur les réseaux sociaux, je me suis permis d'interagir sur un post récemment en toute bienveillance, mais au bout d'un moment, je considère que il n'y a pas d'archétype de l'expert comptable et les experts comptables qui, justement, affirment être en dehors du cadre de l'expert comptable, ça n'est qu'un stéréotype de plus. Enfin, il y a une multitude, enfin, aujourd'hui, enfin, y compris ma génération. Enfin, on est très différents. C'est fini, l'expert comptable qui est sur le même moule, ne serait-ce qu'habillé pareil. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, moi, je partage sur un réseau social de spécialistes, je ne citerai évidemment pas son nom, des sorties de sport avec un grand patron de cabinet français. Enfin, il y a 20 ans, c'était inimaginable. Et on est tous les deux très libérés sur le sujet. Enfin, nos sorties, elles sont publiques et quels que soient les ordres de nos sorties sportives. Voilà, il n'y a plus d'archétype. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas hyper focus la plupart du temps, mais aujourd'hui, c'est souple. Donc, des experts comptables qui aiment aller à des concerts de rock, des experts comptables qui aiment faire du sport. En fait, un expert comptable, c'est un être humain comme n'importe lequel. Donc, le stéréotype, il n'existe plus aujourd'hui. Enfin,
Est-ce
peut-être
qu'on aurait
qu'on.
un socle commun ou des valeurs communes, peut-être? La rigueur dans le travail, je sais pas, la
Ouais,
mise en cause.
alors la rigueur dans le travail, là on est déjà dans le stéréotype. Je pense que on est un métier où évidemment il y a des règles, faire appliquer des règles, mais il faut aussi de la créativité, il faut aussi de l'innovation. Donc je ne souscrirai pas à votre
D'accord.
suggestion sur la rigueur parce que je pense que là on retombe dans l'archétype. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des process, c'est pas parce qu'il y a. Justement, plus il y a de process, plus il y a de règles, plus il faut être créatif, plus il faut être innovant. Parce qu'on a le système qui nous ramène à la rigueur. Donc, au contraire, et je pense que les plus beaux parcours dans la profession ont été faits par des visionnaires et des créatifs, pas par des ultra rigoureux. Hein. Si je remonte pas mal d'années en arrière, on a deux Lyonnais que tout opposait, qu'on fait un super parcours. Latouche et Ricole, ils ont fait un super parcours, pas parce qu'ils étaient rigoureux, parce qu'ils avaient deux visions d'avance sur tout le monde. Dans des genres très différents, et je ne prends pas position sur. Je fais de la pub à personne,
Mais ils
mais
sont sortis un peu de la...
très, très sincèrement, enfin, ils ont révolutionné le métier à l'époque. On s'en aperçoit toujours un peu en décalage. Il y a des parcours hyper inspirants aujourd'hui de patrons de cabinet, y compris de gros cabinets. Encore une fois, je ne citerai pas. Voilà. Et d'autres qui sont plus classiques, même s'il y a un vernis un peu d'innovation. Je pense que ce n'est pas le marketing qui fait. C'est vraiment la direction, les actes qui sont faits, l'emballage. à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure enfin, de la com, tout le monde sait faire un bel emballage. Ce n'est pas l'emballage qui compte, c'est ce qu'il y a sous l'emballage.
Je voudrais aller avec vous maintenant sur la dernière partie, votre futur professionnel. Quels sont vos projets sur cette fin d'année?
Sur cette fin d'année, ça va déjà être de capitaliser notre première partie d'année qui a été au-delà de ce qu'on pouvait, de ce qu'on pouvait prévoir, puisque on a eu la réussite de faire deux belles acquisitions et deux belles croissances qui s'inscrivaient pleinement dans notre plan stratégique. Je prends une minute sur la vision d'Hendrix, le plan stratégique. Voilà, Hendrix, on a vraiment vocation à accompagner les dirigeants sur l'ensemble de leurs sujets. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est du conseil élargi. Ça n'est pas simplement le métier d'expert comptable, le métier d'auditeur. Voilà, notre stratégie, c'est de développer autour du chef d'entreprise un panel d'experts. Aujourd'hui, Hendrix, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30% de notre chiffre d'affaires, c'est des métiers du conseil, pas faits par des experts comptables. C'est 30% aujourd'hui. Donc, on a fait deux belles opérations en début d'année, ce qui fait qu'on est passé de 60, un peu plus de 70 millions à 100 millions, ce qui est énorme en 6 mois quand même. Donc, on a à digérer, capitaliser là-dessus. Évidemment, la dernière opération, le rapprochement avec Excellence, hein, un cabinet de transactions services, d'évaluation, d'audit parisien, a eu un retentissement énorme. Je suis sursollicité sur d'autres opérations à venir et on s'inscrit dans une démarche très offensive là-dessus. Hendrix va continuer de grandir de façon raisonnée, ça ne veut pas dire raisonnable, de façon raisonnée, très vite dans les mois et les années à venir. Donc, de toute façon, on est focalisé sur continuer à étendre notre zone géographique. On est présent nationalement, mais il y a des grandes villes sur lesquelles on n'est pas. On est résolu à continuer à développer nos activités conseil. On envisage d'aller en dehors des frontières, sur des pays européens limitrophes, et on est pleinement inscrit dans la transformation digitale, dans le sujet de la révolution de la facture électronique, de l'exploitation des data et de l'IA. Je rappelle qu'Hendrix est cofondateur il y a 2 ans d'Impulse Data. Impulse Data, c'est le premier et seul data lake de la profession, le seul en fonctionnement, ça c'est certain. 500 000 dossiers aujourd'hui alimentent le data lake Impulse Data. Il y a 4,5 millions d'entreprises en France à peu près, donc 500 000 sur 4,5 millions. Sur juillet, un certain nombre de cabinets devraient nous rejoindre dans l'aventure Impulse Data et on devrait tendre d'ici fin 2026 à peu près 1 million de dossiers qui alimentent Impulse Data. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la transformation du modèle économique, pouvoir exploiter les data, pardon, les restituer, les valoriser auprès de nos clients, ça, c'est un changement de modèle économique. Donc, aujourd'hui, on s'est donné les moyens, Hendrix, dans une aventure collective, parce que data, il faut beaucoup de volume, d'être un acteur majeur en France sur ces sujets-là. Donc, on a une ambition large, Hendrix. On a compris que le monde changeait. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien. On a compris que notre profession, elle était en train de complètement se transformer. On est en mouvement sur tous les sujets. On va continuer à se développer. Le conseil, on l'a intégré, 30% du chiffre d'affaires. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'acteurs de notre taille, hein, puisqu'on est dans les 20 premiers cabinets français, qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui aient une proportion aussi importante au moment où on se parle de conseil. Et puis sur les sujets qui nous animent au quotidien, transformation digitale, facture électronique, IA, data, on a fait des choix forts et des choix qui font qu'on est aujourd'hui leader sur ces sujets en France. Donc voilà la vision et du coup, pour répondre à votre question, vous avez compris qu'on va pas s'ennuyer dans les mois à venir chez Hendrix et on va continuer à rester en mouvement. Alors, de temps en temps, c'est un peu fatigant, mais c'est notre ADN et c'est mon ADN en particulier. Donc voilà, moi je m'ennuie très vite. Hein, voilà, un petit sourire pour mes équipes proches. De temps en temps, c'est fatigant, mais il m'arrive pendant quelques jours de ne pas être au bureau, donc ils peuvent souffler et récupérer.
Maintenant, je voudrais avoir votre position. Où serez dans 10 ans, vous?
Voilà, moi, je ne me projette pas aussi loin. Alors, je vais vous dire, j'ai ça, j'ai, alors, je vais vous dire pourquoi je ne me projette pas aussi loin. J'ai 55 ans au moment où on se parle. J'ai une énergie qui est débordante. Mais j'avais dit quand j'avais 40 ans que je m'arrêterais à 50 ans.
Ah
Donc
oui.
j'arrête de faire des fausses promesses. En tout cas, les années qui viennent sont passionnantes et je veux vivre pleinement les années qui viennent dans notre profession parce que Hendrix a vraiment une position à part et je m'en aperçois tous les jours dans la galaxie des gros cabinets, entre guillemets. On est vraiment, enfin, on a BPI à notre capital, on a été un des premiers à avoir un financier à notre capital. On n'a pas un fonds anglo-saxon aujourd'hui. Donc vraiment, on a une vocation. Et on a une trajectoire qui est singulière par rapport à certains. Et encore une fois, je porte pas le jugement de valeur. Il y a plein de trajectoires qui sont hyper positives, hyper intéressantes. Mais on a notre trajectoire propre. On s'inscrit pas comme un big, on s'inscrit pas comme une nouvelle plateforme avec des fonds anglo-saxons qui viennent agglomérer vite. On a une trajectoire propre. On a été un des pionniers sur pas mal de sujets. Le premier à faire rentrer un financier à son capital avec un financier un peu particulier qu'est la BPI. On fait partie des 7 premiers qui ont créé Impulse Data, c'est-à-dire un game changer sur le modèle économique. Et on continuera à innover dans les premiers sur différents sujets. On se plantera hein, certaines fois. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un sujet. On s'autorise à se planter de temps en temps. Ce qu'on ne s'autorise pas à faire, c'est à rester immobile.
Ben ce sera presque le mot de la fin. Avant, pour finir l'interview, je voudrais vous proposer un jeu qui s'appelle le jeu Confession intime. Le but, c'est que les auditeurs vous apprennent mieux.
Je n'ai pas préparé. Vous
c'était fait exprès, c'est vous allez spontané. Voir. C'est juste de me dire, en gros, vous me dites plus ou moins à la question que je vous pose. Alors, est-ce que vous travaillez plus ou moins 50 heures par semaine?
Je vais être honnête, je vais dire moins en moyenne.
Ben c'est bien ça.
Il y a des semaines beaucoup plus, mais il y a des semaines où j'ai pas, je sais prendre du temps. Justement pour être focus à d'autres moments. Là, sur nos grosses opérations sur le premier semestre,
ça va être plus de 50.
J'étais largement à plus de 50 par semaine. Et typiquement, je vais dans 15 jours, je fais du vélo, énormément de vélo, je vais passer quasiment une semaine sur le Tour de France, donc dans un cadre semi-professionnel, semi-personnel. Mais je considère que là, je vais bosser moins de 50 heures, même si je vais peut-être faire 50 heures de vélo.
Est-ce que vous avez plus ou moins de 10 amis proches?
Alors, si on dit amis proches, je dirais moins. Proches, c'est vraiment sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi en toutes circonstances. Donc, voilà.
Est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures par nuit?
Moins. Mais je ne dors pas assez.
Prenez-vous plus ou moins de 5 semaines de vacances par an?
Je pense que j'en prends un peu plus.
Envisagez-vous de prendre votre retraite à plus ou moins de 65 ans?
Alors, au moment où on se parle, je dirais moins de 65 ans.
Ouais, bon, on verra après.
Mais on verra.
C'était 50 ans, vous aviez
oui,
dit.
Oui, je me suis déjà trompé plusieurs fois. Mais je vous réponds encore une fois avec honnêteté au moment où on se parle.
Eh bien, je vous remercie et je vous remercie encore de votre accueil.
Merci beaucoup. C'était très agréable et très sympa d'échanger pendant, je pense, à peu près une heure.
Ouais, exact. Merci.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.